Il est 9h. L'heure du journal avec Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Lucas, bonjour à tous. Au Kenya, le calme est revenu après les violences qui ont suivi l'élection présidentielle et qui ont fait 16 morts la semaine dernière. Mais le chef de l'opposition, Raila Odinga, refuse toujours la victoire du président sortant Kenyatta. Il doit s'exprimer aujourd'hui pour expliquer sa stratégie pour contester les résultats. La journée s'annonce donc décisive, Bruno Meyerfeld.
Des marchés ouverts, des embouteillages, la vie est comme redevenue normale à Nairobi. Dans les bidonvilles, les bus évitent les gravats et les restes de barricades. Le président réélu Uhuru Kenyatta s'est exprimé hier, l'air satisfait, sûr de lui. Il a appelé Raila Odinga à manifester pacifiquement et utiliser des voies légales pour faire valoir sa contestation. L'élection est derrière nous, a insisté le chef de l'État, saluant, je cite, la majorité des Kenyans ayant repris le travail. Mais le calme pourrait n'être que de courte durée. Odinga doit s'exprimer aujourd'hui et donner la stratégie à suivre à ses troupes. Mais à Gwambo, le mystère comme on le surnomme ici, est difficile à décrypter. À 72 ans pour sa quatrième campagne présidentielle, il joue son va-tout. Et difficile de croire que cet homme orgueilleux, adulé par ses fidèles, leader de l'opposition depuis 30 ans et qui a passé 9 années de sa vie en prison, choisisse d'accepter les résultats et de prendre d'un coup d'un seul sa retraite. Chacun s'attend donc à ce que Odinga prolonge le mouvement. Peu importe les conséquences.
Correspondance à Nairobi de Bruno Meyerfeld. Au Sahel, 9 personnes ont été tuées lors de 2 nouvelles attaques au Mali contre la mission des Nations Unies, la MINUSMA. Le Burkina Faso est par ailleurs en deuil national. Jusqu'à demain, l'attentat d'hier qui a fait 18 morts n'a toujours pas été revendiqué. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit par ailleurs discuter aujourd'hui de la sécurité en Afrique et de la constitution d'une force internationale anti-djihadiste dans la région. En Corée du Nord, Kim Jong-un dit vouloir observer l'attitude des États-Unis avant de prendre une décision sur d'éventuels tirs sur l'île de Guam. 4 missiles sont néanmoins prêts, selon la propagande de Pyongyang, pour viser ce petit territoire américain du Pacifique. Sur l'île de Guam, la plupart des habitants restent calmes et refusent de céder à la panique. Mais en cas d'attaque, certains seront mieux protégés que d'autres. Angélique Forger, vous avez rencontré un résident de l'île qui vit dans une maison ultra sécurisée.
Lee Weber habite une immense maison juchée sur un promontoire rocheux qui domine l'océan Pacifique. Une forteresse dans laquelle il se sent protégé.
Cette poutre-là, c'est du béton armé et de l'acier. La terrasse-là, c'est du béton armé aussi. Toute cette maison est en béton armé.
Ce vétéran de la marine américaine a tout prévu. Un générateur électrique de 10 heures d'autonomie et au fond de son jardin, une grande cuve en acier.
Il contient près de 3000 litres d'eau. C'est de l'eau fraîche. Il faut sceller le réservoir, comme ça on peut être sûr que la poussière ne pourra pas rentrer en cas d'explosion.
À Guam, les plus aisés habitent ce type de maison, conçue à l'origine pour résister aux typhons et aux tremblements de terre fréquents dans la région. Mais Lee Weber le sait, son bunker ne lui permettra pas de résister au pire.
On est en sécurité à 100%. Ces maisons sont conçues pour nous maintenir en sécurité dans les pires conditions que l'on puisse imaginer en temps normal, mais pas pour une attaque nucléaire.
Pour Lee Weber, la meilleure des protections reste le bouclier antimissile déployé sur l'île.
Reportage d'Angélique Forger. En France, il y a 100 jours aujourd'hui, Emmanuel Macron battait Marine Le Pen avec 66% des voix au second tour de l'élection présidentielle. 100 jours, cap symbolique du début du quinquennat et l'heure aussi des premiers bilans. Les principales promesses de la campagne n'ont pas été tenues, estime le politologue Jérôme Sainte-Marie. Écoutez l'analyse de ce spécialiste de l'Institut de conseil en opinion, Polling Vox.
Les 100 jours qui viennent de s'écouler ont montré la force d'une espèce de loi de la pesanteur politique qui fait que, en quelques semaines, les nouveaux gouvernants sont atteints par l'impopularité. Et ça, c'est un peu une surprise pour Emmanuel Macron, puisque lui avait fait une promesse très forte, celle de rassembler les réformateurs de gauche et de droite pour justement éloigner cette malédiction qui faisait que les nouveaux pouvoirs, celui de Nicolas Sarkozy par exemple, celui de François Hollande ensuite, étaient rapidement limités dans leurs ambitions par la faiblesse de leur base politique et de leur base sociale. Pour l'instant, ce pari de Emmanuel Macron ne semble pas devoir être tenu. Et ensuite, il y a évidemment la politique gouvernementale telle qu'elle fut annoncée, avec notamment cette politique de rabot budgétaire qui a fait que beaucoup de catégories, par exemple l'immense catégorie des retraités, se sont senties vaguement menacées par la politique suivie, sans pour l'instant qu'il y ait évidemment des résultats à montrer en face des efforts demandés. Il va être amené, faute de soutien majoritaire dans l'opinion publique, si les sondages se confirment, eh bien, à devoir reposer, comme ses prédécesseurs, sur, l'appareil d'État. La coercition que ça représente, qui est bien sûr acceptée dans un cadre républicain, mais qui fait que son programme exceptionnellement ambitieux risque de reposer avant tout, pour être appliqué, sur l'obéissance, beaucoup plus que sur l'adhésion.
Des propos recueillis par Camille Magnard. Le ministère de l'Agriculture va rendre public ces prochains jours la liste des produits contaminés au fipronil. Les autorités viennent en effet d'identifier 6 nouveaux établissements de transformation et 40 grossistes qui ont reçu des œufs contenant à très faible dose cet insecticide vendu frauduleusement aux éleveurs. Pas de risque pour la santé, reprécise le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert dans le journal Le Parisien ce matin. Enfin, une promenade en bord de mer et au pays du surréalisme pour refermer ce journal. La Belgique rend en effet hommage à Magritte, qui est mort il y a tout juste 50 ans. L'artiste aimait se rendre sur les plages de Knokke pour trouver l'inspiration. Alors, en guise de clin d'œil, la commune a mis en place plusieurs installations pour lui rendre hommage. Parmi celles-ci, une expérience de réalité virtuelle. C'est un reportage de notre correspondante à Bruxelles, Laxmi Lota.
C'est sous un chapeau melon géant que les spectateurs pénètrent et enfilent un casque de réalité virtuelle. Les voilà plongés dans l'œuvre de Magritte. Des hommes en pardessus noir et chapeau melon tombent soudain du ciel. On croise aussi cette sirène inversée, des jambes de femme et une tête de poisson. Un voilier fait de ciel bleu, des créatures mi-arbre, mi-homme. Ici, le jour et la nuit se côtoient au même instant. Magritte est le peintre des impossibilités et des transformations, un univers qui a fasciné Anne et ses amis.
Là, le petit spectacle dans le chapeau, unique, inouï.
Je ne connaissais pas ce genre de choses, mais c'est surprenant. Les oiseaux, le ciel, les arbres qui transformaient en humains.
Extraordinaire. La seule chose que je regrette, c'est qu'il fasse gris aujourd'hui et qu'il pleuve. Mais bon, ça c'est la Belgique aussi, hein ? Oui, ça fait partie.
Il pleut à Knokke. On est loin du parfait ciel bleu représenté dans les œuvres de Magritte. Pourtant, c'est bien ici, face à la mer du Nord, que l'artiste est souvent venu trouver l'inspiration. Francine Caran, responsable de l'exposition.
Il adorait Knokke. Il a aussi trouvé beaucoup d'inspiration de la mer. Mais tous les soirs, il rentrait à Bruxelles pour être avec sa femme et son chien Loulou.
Sur la plage, les touristes peuvent faire des photos devant une pipe et se rappeler le commentaire du peintre « Qui pourrait fumer la pipe de mon tableau ?» Personne, donc, ceci n'est pas une pipe.
Reportage signé Laxmi Lota et expérience de réalité virtuelle avec Magritte à vivre jusqu'au 3 septembre à Knokke en Belgique. La météo avec un ciel digne de celui de Knokke dans les Hauts-de-France avec également des risques d'orage. Même temps en Ile-de-France et en Centre-Val de Loire pour la matinée. Soleil par contre généreux en Méditerranée et dans les Alpes. Alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs. Les températures ce matin de 17 au nord à 27 au sud. Cet après-midi elles iront de 20 à 26 sur le nord et l'ouest et jusqu'à 34 degrés. Au sud, 9h08 sur France Culture. Ce journal a été préparé avec Yacine Bouzard et Martin Descloseau. À la technique, c'était Alexandre Dang. Prochaine édition à 12h30, ce sera avec Antoine Mercier.